Bonjour à tous, bienvenue dans l'Étoile Polaire.
Et bonjour, bienvenue à vous.
Donc c'est Fred et Pierrick qui vous présentent cette émission d'astronomie amateur.
C'est ça.
Et aujourd'hui, nous allons parler du ciel ce soir. Qu'est-ce
Vraiment.
qu'on voit dans le ciel ce soir?
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel ce soir? Eh bien, un petit peu comme la semaine dernière, parce que d'une semaine sur l'autre, ça change pas énormément. Hein, le ciel, il tourne pas si vite que ça. Donc, c'est centré sur plein sud. On a le taureau avec Aldébaran, cette étoile orangée, et le V du taureau, avec à côté l'amas ouvert des Pléiades dont on a parlé la semaine dernière. Un peu plus loin, Orion, avec toujours sa ceinture là, de trois étoiles alignées. Ça, on va en reparler parce que.
Elle est vraiment magnifique, elle est facile à repérer, c'est vraiment chouette de la voir.
C'est vraiment une belle constellation. Ouais. Et puis voilà, donc Orion qui donne qui indique la direction de Sirius dans le Grand Chien, ça on l'avait dit aussi. Plus loin et au-dessus, les Gémeaux. Et puis ensuite va se lever le Lion. Voilà, très très belle constellation. Donc on s'était arrêté là la semaine dernière. Donc ça, on vous encourage. Si vous vous êtes pas sorti observer, eh ben à le faire. Si vous l'avez déjà fait, à le refaire. De toute façon, c'est sans fin cette histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai dit, ouais, on peut faire un petit focus sur la grande nébuleuse d'Orion.
Ouais.
Donc,
Donc dans la ceinture d'Orion.
mais juste en dessous.
Ok.
Donc, Orion, c'est une sorte de grand trapèze.
Ouais, donc peut-être ces trois étoiles
Les
alignées
trois étoiles alignées
sont
qui
vraiment en
sont.
ligne droite.
Ouais, et qui sont. Plutôt, on va dire, si on regarde le dessin de la constellation, elles sont plutôt à l'horizontale ou vers le bas, mais c'est la ceinture, quoi. Donc, et en
Oui, ok.
fait, donc c'est la partie inférieure de ce trapèze-là.
D'accord.
Juste sous la ceinture, il y a une nébulosité qu'on voit à l'œil nu. Donc toujours aidé par la vision périphérique, hein, on en a déjà parlé.
Oui, de regarder un petit peu à côté pour essayer de voir quelque chose. Ouais.
Voilà, pour voir les objets diffus.
Ouais.
Et donc là, on la voit cette tâche très bien à l'œil nu. Alors il faut que le ciel soit un minimum clair et qu'il n'y ait pas trop non plus de pollution
Et puis,
lumineuse.
il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour bien regarder, pas juste regarder comme
Ça,
ça.
c'est sûr. Déjà, il faut prendre le temps pour bien repérer où est
Ouais.
Orion, à coup sûr. Enfin,
Ouais.
mais là, c'est vrai que c'est la bonne période pour apprendre cette. Enfin, en fait, à chaque période, on apprend une partie du ciel. Si on observe un petit peu régulièrement pendant. Bah, en un mois, on a vu quand même plusieurs fois les mêmes figures et on a eu le temps de les imprimer pour l'année d'après quand elles reviennent, en fait.
Ouais, ok.
Parce qu'en fait, quand on observe en début de soirée, ben, au cours de l'année, bien sûr, le ciel il change. Ça, on l'a dit, il change peu chaque semaine, mais il change quand même. Et du coup, là, voilà, on peut voir cette zone autour d'Orion et bien. En plus, on est aidé parce qu'il y a beaucoup d'étoiles brillantes. Que ce soit Rigel, Bételgeuse, Sirius. Ou bien Capella dans le cocher un peu au-dessus qui est aussi
Qui
très
brille
très
fort.
brillante. Ouais,
Ouais.
Aldébaran, bon, c'est pas un phare, mais elle est quand même bien repérable. Et après, on a quand même Castor et Pollux, là, les deux étoiles des Gémeaux. Et puis Régulus du Lion, voilà, tout ça, c'est des étoiles qui brillent quand même bien.
Et ouais.
Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est pas dans toutes les régions du ciel qu'on a des étoiles brillantes. Hein. On parlait de l'étoile polaire la semaine dernière et de la Grande Ourse.
Ouais, brille pas très fort finalement.
Voilà, autour de la Grande Ourse, c'est pas,
Ouais,
une zone qui est souvent sombre, peu d'étoiles au final, pas dense en étoiles.
ouais. Ouais, ok.
Voilà, donc je reviens à la grande nébuleuse d'Orion, donc qui est vraiment à l'œil nu, je dirais intrigante. On la devine aux jumelles, c'est très joli. Alors, plus on a des jumelles lumineuses évidemment, et mieux c'est. Et après au télescope. Et alors là, il y a des Donc, pour ceux qui l'ont jamais vu, là c'est du gaz. Hein, on est dans la nébuleuse, donc ça veut dire du gaz luminescent avec des étoiles à l'intérieur. Donc tout est nimbé comme du lait, quoi. C'est voilà, des voiles de lumière un peu partout.
Quand tu dis luminescence, c'est.
Bah, on a l'impression que ça brille, quoi,
D'accord.
comme de la poussière brillante, bah, comme un peu comme quand on regarde la Voie lactée. On a un peu cette sensation-là. Que
Oui,
là, la Voie
d'avoir
lactée, c'est des
une.
étoiles qu'on voit qui créent cette nébulosité. En fait, ça devient tellement dense que ça devient continu. C'est un peu
D'accord.
ça.
Ouais.
Mais là, c'est du gaz. C'est encore différent. Du gaz, des poussières, des choses. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir tout un dessin comme une peinture. Parce qu'il y a des zones qui sont luminescentes et d'autres qui ne le sont pas. Des zones qui vont être froides et qui vont du coup être des poussières froides qui vont, elles, absorber la lumière et donc apparaître noires.
D'accord.
Et donc on va avoir tout un tas de lignes plus noires, lumineuses, alternantes, et ça, ça fait des dessins. Et c'est ça qu'on voit quand on regarde une nébuleuse, dans même les photos de Hubble ou tout ça. C'est ce jeu entre de la lumière et de l'ombre, quoi. Ouais, de l'émission de lumière et de l'absorption de lumière.
Les passages de lumière qui diffèrent, voilà.
Et donc dans la grande nébuleuse d'Orion, il y a un détail qui s'appelle la tête de cheval et qui est quand même aussi une photo très célèbre où on voit sombre une forme de tête de cheval qui se découpe sur une nébuleuse luminescente. Et c'est joli aussi, ça forme des...
Mais ça on voit pas au télescope
ça,
classique.
Ça, on peut le voir au télescope d'amateur gros. Si vous avez... Il faut commencer à avoir du matériel. Mais c'est accessible à un amateur, mais il faut avoir un peu de matériel quand même, et ça va se deviner.
D'accord.
Voilà pour le ciel ce soir. On va quand même parler un peu des planètes. Donc toi, tu nous parlais, Pierrick, la semaine dernière de Vénus que je t'avais observé là.
Ben oui, le soir. Toujours Vénus est magnifique au crépuscule, elle est toujours là, bien scintillante, bien belle. C'est la première qui se lève et c'est un beau spectacle à chaque fois. Ouais.
Là, c'est le soir, elle est à l'ouest en ce moment, Vénus.
Le soir.
Donc elle se couche. Elle se couche en fait un peu après le soleil, c'est pour ça qu'on la voit.
Ouais, c'est dans les premières étoiles qui apparaissent.
Et ben non. Mais non, c'est parce que c'est les autres planètes là qui sont devant le Soleil justement, ce qu'on regardait tout à l'heure là avec Vénus et Jupiter, qui elles vont se lever les premières. Donc le soir on observe Vénus qui est à la traîne du Soleil en fait, mais pas très loin derrière lui.
Oui.
Du coup dès que le Soleil disparaît, on voit Vénus parce que sinon son éclat est masqué par celui beaucoup plus brillant du Soleil. Donc on la voit. Ensuite elle se couche.
Oui.
Et au petit matin, on a Jupiter
et Saturne
qui sont un peu devant le Soleil, donc ils vont se lever avant le Soleil. Du coup, on va les voir en cette fin de nuit,
okay.
Ou celle du petit matin. Et ensuite, quand le Soleil se lève, là, c'est terminé, on ne voit plus rien, c'est le jour.
Et oui.
Donc là, on peut observer, donc pour ceux qui se lèvent tôt et ou pour ceux qui s'endorment au moment où le Soleil se couche, là, on a de belles planètes bien brillantes à observer tous les soirs.
Donc toujours un peu proche de l'horizon quand même,
c'est
plutôt
ça.
Un peu basse sur l'horizon. Voilà. Pas tout en haut, mais...
Non, ouais, voilà, ouais. Plutôt bas. Donc, alors, après, à chacun de repérer ses points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, là où vous habitez, voilà.
Donc, Vénus le soir,
ouais.
Et Jupiter, Saturne le matin
petit
tôt.
Matin, ouais.
Ouais. Okay.
Juste avant le lever du soleil. Eh bien, super. Voilà pour le ciel ce soir. Alors, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la question. On avait dit qu'on allait... donc on va changer de rubrique, tranquillement. Après toutes ces considérations sur ce que vous pouvez voir et qui est quand même la base de l'astronomie amateur. Hein,
oui, et puis c'est notre émission, elle est là pour ça, pour aider à observer, quoi.
Voilà, là ce qu'on vous donne, c'est des choses... c'est sortir, juste penser, c'est le petit matin. Ah, le petit matin,
il y a deux points qui brillent bien, là.
Deux trucs qui brillent,
ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bon, vous avez vu Jupiter et...
C'est cool quand même.
Et Saturne, c'est quand même... Après, si vous voulez aller plus loin, Saturne et Jupiter au télescope, c'est... aux jumelles, ça commence. On peut voir les anneaux de Saturne aux jumelles. Hein. Et au télescope, là, c'est sûr. On peut même voir des divisions dans les anneaux. Jupiter, on peut voir la tâche. On voit tout un tas de choses. Quoi.
Ouais, c'est un beau spectacle. Ouais.
C'est magnifique. Et Vénus, non, par contre. On en parlait, Vénus, son atmosphère, elle est très très dense. Et du coup, elle renvoie la lumière du soleil, elle apparaît comme une étoile.
Oui, on ne voit pas de relief.
On ne peut pas observer la surface. On peut voir que les phases qu'elle fait. Mais ça, bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Okay.
Voilà, donc après tout ça, on passe à la question de la semaine. Alors cette semaine, c'est une question de mon fils. Qui me demande...
Ouais, les enfants, ça les intrigue.
Ouais. Comment sont fabriqués les trous noirs? Avec quelle matière?
Et bim.
Donc, après les ondes gravitationnelles, les trous noirs...
Bon, on en profite, on a un Fred sous la main.
Ouais, on a pas de rien dans l'étoile polaire. Alors, comment sont fabriqués les trous noirs? Avec quelle matière? Et bien là, en fait, ça nous amène à parler d'évolution stellaire. C'est-à-dire, les astronomes, les astrophysiciens, ils observent des étoiles. La plus proche, c'est le Soleil, ils l'ont étudiée. Ils ont observé le plus qu'ils pouvaient ces étoiles, ils ont analysé leur lumière et ils ont essayé de comprendre, en fait, comment naissait une étoile, qu'est-ce qui se passait au cours de sa vie et qu'est-ce qui se passe à la fin. Parce que comme tout dans l'univers, les processus, ils ont un début et une fin. Donc on va parler de la vie des étoiles. Il y a un début, il y a une fin, il y a une vie, il y a une mort, voilà. Les astronomes, ils ont commencé à se pencher là-dessus. Et ils ont établi tout un tas de catégories d'étoiles. Mais en fait, le plus important dans une étoile, c'est la masse. En fait, c'est ça le paramètre qui va tout déterminer. C'est quelle est la masse de cette étoile. Okay. C'est-à-dire quelle quantité de gaz contient cette grosse boule.
Parce qu'une étoile, c'est du gaz.
De gaz en oui.
C'est que du gaz.
Oui. Enfin, c'est, en fait, oui. Oui. C'est principalement de l'hydrogène, en fait.
D'accord. Il n'y a rien de solide
Non, non.
Ah ouais, ok.
Pas qu'on... Alors, non.
Pas qu'on sache.
Non. Donc, voilà, c'est leur masse. Alors, à savoir que notre étoile, le Soleil, donc on compte, ça va être un des fils conducteurs de cette émission, hein. Il y en aura deux, ça va être la lumière et un peu les unités adaptées à ce dont on parle, à savoir l'univers. Donc là, les étoiles, quand on parle d'étoiles, bah, nous, l'unité qu'on va utiliser, c'est la masse solaire. Bah, on va considérer que la masse du Soleil, c'est 1.
La masse de notre Soleil, voilà. C'est 1.
On dit okay. Que ça vaut 1. Et du coup, les autres étoiles, elles pèsent combien? Et là, d'un coup, on peut visualiser mentalement ce que ça représente. Parce que si on donne les chiffres en kilos, on va parler de milliards, de milliards, de milliards de kilos, et l'autre qui en a des milliards, de milliards, mais bon, ça n'a plus de sens. Donc voilà, notre étoile étant une étoile moyenne, dans ce qu'ont observé les astrophysiciens, à la fois en termes de taille, en termes de luminosité, et aussi elle est au milieu de sa vie. Donc on pense que notre étoile est à 5 milliards d'années. Voilà.
Okay.
Donc je ne m'éloigne pas du sujet, hein, je reste centré sur les trous noirs, mais il faut quand même... parce qu'en fait, voilà, on va le dire, le trou noir, dans le modèle des astrophysiciens, c'est le cadavre d'une étoile supermassive.
Supermassive, alors comme tu parlais d'échelle,
voilà,
là,
ça. Alors,
donc combien de fois le Soleil, voilà.
C'est pour ça que je parle d'évolution stellaire, parce que cadavre et parce que étoile supermassive.
Ouais.
Donc étoile supermassive, ça va être par exemple 50, 100 fois la masse du Soleil.
D'accord.
Voilà. Et donc en fait, comme je disais, ce qui va déterminer la vie et la mort d'une étoile, c'est sa masse. Et plus elle est grosse, plus elle a des destins tragiques, en fait, quelque part, et impressionnants. Donc, quand une étoile comme le Soleil va mourir, concrètement, ça veut dire quoi d'ailleurs ?
Ouais, l'étoile
de
mourir.
Meurt,
ouais.
Donc, j'ai dit, l'étoile, c'est principalement de l'hydrogène.
Ouais.
Et donc, la source d'énergie des étoiles, c'est la fusion nucléaire. C'est-à-dire, on transforme de l'hydrogène en hélium. C'est-à-dire, on transforme des éléments chimiques légers en éléments plus lourds, plus complexes. Et donc, en faisant ça, ça libère de l'énergie. Alors, ça, c'est de la physique nucléaire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, là on parle des trous noirs.
Ouais.
Mais la source d'énergie des étoiles, c'est ça, la fusion nucléaire. Mais bon, ça c'est, il faut un carburant, il faut de l'hydrogène. Quand il n'y a plus d'hydrogène disponible,
ça démarre du coup.
Ça s'arrête.
Ouais, ouais.
Alors il faut que ça démarre, ça c'est la naissance des étoiles.
Ouais.
On consacrera une émission entière, ou même plusieurs, à tout ça.
Donc là c'est vraiment la mort de
l'étoile. Là on parle de la mort de l'étoile. Donc au moment où il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien pour alimenter cette fusion.
Ok.
Donc là, d'un coup, l'étoile qui, pendant des milliards d'années, a irradié une énergie phénoménale...
Elle a brûlé tout son hydrogène.
D'un coup,
brûlé.
Là, elle n'irradie plus.
Ouais.
Et clairement, ça va faire que l'étoile va s'effondrer sur elle-même, en fait. Parce que toute cette masse de gaz, en fait, elle était maintenue par aussi ce rayonnement énergétique qui pulsait vers l'extérieur.
Ah oui,
et
okay.
Là, d'un coup, ça n'arrive plus.
Et la
donc,
gravité...
cette masse énorme, exactement. La gravité va d'un coup l'emporter et l'étoile va commencer à s'effondrer sur elle-même. Et donc à se densifier, donc à s'échauffer, enfin voilà.
Donc densifier, c'est devenir plus masse,
c'est-à-dire plus massive. De plus en plus de matière à l'intérieur d'un même volume.
D'accord.
Plus dense.
Ouais, ouais.
Et en fait, voilà, donc selon la masse de cette étoile, on imagine bien que si vous avez quelque chose de très 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 massif, eh bien, ça va se comprimer énormément. Beaucoup plus que si vous avez moins de matière, ça va moins pouvoir quelque part s'écraser et densifier au milieu. Donc c'est un peu ça l'idée pour schématiser. Et donc sur une étoile type Soleil, on va avoir ce qu'on appelle une géante rouge. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, là je passe les détails, mais le résultat, c'est que l'étoile commence à s'effondrer et il y a une sorte d'onde de choc retour avant de mourir qui va faire que l'étoile va grossir pour le Soleil jusqu'à l'orbite de Mars.
Elle s'effondre jusqu'à un certain point où elle ne peut pas aller plus loin.
Quelque part, c'est
finalement,
ça.
Finalement, ce choc d'arriver au fond,
c'est ça.
Paf, ça la fait réexploser
c'est
dans l'autre
bonne
sens.
Image.
Ok.
Et là, ça va faire donc pour le Soleil une géante rouge qui va englober la Terre et Mars, donc les planètes internes.
Ouais, ça explose fort, quoi.
Donc ça, ce serait selon les schémas astrophysiques dans 5 milliards d'années à peu près. Et ensuite, ça se réeffondre et ça finit en naine blanche, enfin une petite étoile assez dense, un petit corps quand même de matière dense, très dense, mais qui n'émet plus de lumière, mais qui va continuer à émettre quand même de l'énergie sous forme des rayons assez énergétiques, type gamma, etc. Il y a quand même des signatures, on peut les détecter.
D'accord, ok, ouais.
Bon bref, ça voilà pour...
Mais c'est pas ça qui fait un trou noir. Alors.
Non, mais maintenant on imagine quelque chose, comme tu l'as justement dit, là, cette espèce d'effet rebond.
Ouais.
Et ben, si on a maintenant donc, une étoile supermassive, en fait là on va tellement comprimer qu'on va atteindre des états de la matière, en fait on va commencer à vaincre des barrières répulsives à une échelle encore inférieure, c'est-à-dire à l'échelle des noyaux entre les protons et les neutrons, etc. Et on va écraser jusqu'à atteindre des matières qui là se mettent à être tellement denses qu'elles déforment l'espace-temps vraiment de façon très importante.
Là, on rentre dans le vif du sujet. Là.
Un peu cette image qu'on avait déjà évoquée de l'orange qui déforme un oreiller, en imaginant que la surface de l'oreiller ce soit l'espace-temps et l'orange ce soit une masse. Type une étoile comme ça là, et ben voilà cette déformation, cette courbure de l'espace-temps, elle va générer tout un tas d'effets, déformer la lumière, etc., déformer le temps, voilà.
C'est l'univers, c'est un plan, c'est un plat quoi. Dessus il y a une étoile supermassive qui est très lourde, et quand elle se rétracte, ça devient tellement lourd.
Ben, elle creuse le trou là.
Du coup, elle tombe, elle creuse un trou.
Un trou très très profond.
On ne sait pas et trop où finalement.
Dans le stade du dessus, c'est donc ce qu'on avait appelé une étoile à neutrons. Je détaille pas, mais c'est la même chose qu'un pulsar en fait. Donc une étoile à neutrons, c'est déjà quelque chose de très 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 dense, très 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 massif, et qui va être comme une espèce de toupie qui va émettre quand même des rayons très énergétiques à travers l'espace.
Elle tombe très vite celle-là, ouais.
Ben oui, elle se met à tourner très vite sur elle-même parce qu'en fait, c'est la conservation du moment cinétique, un peu comme un patineur. Quand il a les bras écartés.
Oui, il ne peut pas s'arrêter d'un coup, quoi. Il continue à tourner.
Au moment où il ramène les bras vers lui, il se met à tourner de plus en plus vite. Ça, c'est un effet physique.
Okay,
et les étoiles, c'est pareil. Au moment où elles s'effondrent sur elles-mêmes,
elles accélèrent en plus. Okay.
Et donc, l'étoile à neutrons. Et dans le cas donc, des étoiles supermassives, les plus massives.
Ouais.
On peut imaginer dans cette image que tu as donnée de l'orange là, ou de la bille qui tombe au fond d'un puits, et bien là, c'est même plus qu'on tombe, on ne fait pas un trou, on creuse, en fait, on fait un trou. Et qu'est-ce que ça veut dire un trou? Parce que ça, on ne peut pas imaginer. Un trou, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus rien qui sort, tout est attiré. Tout ce qui rentre, toute l'information, toute la lumière, n'importe quelle particule, n'importe quoi qui rentre,
tombe dans ce trou.
Et concrètement, pour un trou noir, on appelle ça l'horizon des événements.
C'est la dernière chose qu'on voit autour du trou noir.
C'est la dernière limite qu'on voit où on peut recevoir de l'information. Et par contre, cette limite-là, elle émet énormément d'énergie, des rayons gamma, etc. Parce que justement, à cet endroit-là, les particules ou les rayonnements qui tombent, qui sont absorbés à l'intérieur, en fait, sont attirés par cette masse énorme, par cette espèce de puits là, et se mettent à accélérer très très fort et donc à rayonner quoi.
Okay.
Et donc c'est ça qu'on capte, les sursauts gamma, en fait c'est un peu le dernier champ du signe de la matière absorbée par le trou noir.
Mais ça tombe où finalement après?
Non mais après tomber c'est une image. En fait ça va derrière,
non, mais
derrière
juste pour dire,
ce qu'il y a, on n'en a aucune idée.
Ouais, voilà.
Les modèles, ils s'arrêtent. Là. Les modèles, ils arrivent à une singularité où, en fait, plus rien n'a de sens dans les équations. On ne peut pas aller plus loin.
Ouais.
Voilà. Donc, pour résumer cette histoire, et pour garder le fil, pas trop s'éloigner.
On ne peut pas faire des voyages temporels dans les trous noirs.
Voilà, c'est ça. Donc, les histoires de trous noirs, de trous blancs, là, on ne va pas. Qu'est-ce qu'un trou noir? Avec quelle matière il est fabriqué? Donc un trou noir est fabriqué par la c'est le cadavre d'une étoile supermassive. Et sa matière, en fait, c'est une matière extrêmement dense. En fait, c'est une sorte de purée de protons, de quarks, de constituants élémentaires de la matière et complètement soudés les uns aux autres.
Et ça peut durer longtemps, un trou noir, ou ça fait... Ça disparaît vite, ou ça dure des millions d'années.
Jusqu'à la fin de l'univers, en fait. Enfin...
Ah ouais, c'est un truc infini qui...
Alors après, il y a des trucs complètement ésotériques, là, des théories sur l'évaporation des trous noirs. Bah, justement, c'est Stephen Hawking qui a travaillé là-dessus.
Ouais.
Donc quand même, il y aurait des particules qui, dans un certain contexte, arriveraient à s'échapper d'un trou noir, etc. Bon, là, franchement, moi, je ne maîtrise pas du tout. Mais c'est amusant, quoi.
Ouais,
donc
ouais.
Est-ce que s'il s'évapore, on peut considérer qu'il perd de l'énergie et que donc il
s'affaiblit un peu?
Voilà, ouais. J'en ai aucune idée.
Ok.
On rentre dans la... c'est pas de la science-fiction, mais presque. Bon. Donc voilà, pour cette question.
On en voit dans des trous noirs on...
Ben justement, ça va nous amener à ce point d'actualité de la semaine. Parce qu'on est tombé là, l'autre jour sur ce numéro de La Recherche. Donc ça, La Recherche, c'est un magazine qui... c'est un magazine du CNRS, en fait, à but de vulgarisation. Donc là, c'est quand même des trucs... on est quand même sur des articles de scientifiques, on va dire, sérieux. Quoi. On est sur l'establishment, là.
Ouais.
La version officielle de la science, voilà. Et donc, il y avait les 10 découvertes de l'année, donc 2019. Et dans ces découvertes, il y avait la première image jamais obtenue d'un trou noir, ou en tout cas de l'horizon d'un trou noir. Et donc, Pierrick regardait la photo.
Et en fait, c'est un peu de la merde. Hein.
C'est vrai que ça fait un peu grosse tâche
sur
un vieil écran.
On voit rien, c'est tout pixelisé.
Bon, sincèrement.
Ils ont foutu, quoi, les gars.
C'est pas
grave, je déconne, hein, c'est sûrement du gros travail, mais c'est vrai que la photo, elle est pas foufou, quoi.
Ben en fait, c'est ça. Moi aussi, ça m'a inspiré la même chose. Un peu,
c'était le truc de fou, quoi. Et puis tu vois la photo, tu fais... Ah ouais, ah,
c'est le décalage énorme.
C'est pas une grosse spirale délire, là, où tu... Non, c'est pas ça du tout.
Ouais, c'est ça. Tout le monde se fait des images complètement fantastiques de trous noirs. Et là, on voit ce truc. En fait, ça pourrait être tout et n'importe quoi.
Ouais,
ça pourrait être un gars qui dit « Tu montais en haut du Glandas, là, j'ai vu un ovni !» et qui a pris ça. Et sincèrement, ce serait pareil. Non, mais bon, on se moque. Mais en tout, enfin, c'est pas...
Alors,
pour...
respecte le travail, attention.
Voilà, c'est,
hein,
c'est pas pour critiquer le travail ou quoi que ce soit. C'est là, on parle plus de notre ressenti, en fait, juste. Bon, et ça, voilà. Après tout, ça, on en reste libre.
Allez voir la photo du premier trou noir. Vous verrez que c'est... Voilà.
Et alors que, bon, c'est quand même un événement scientifique majeur pour la communauté astrophysique et physique en général. Parce que c'est la première fois qu'on observe réellement quelque chose qui cadre avec le modèle du trou noir. Parce que ça aussi, il y a un décalage énorme entre toute la fantasmagorie qu'on peut faire sur les trous noirs depuis quand même un certain nombre d'années, et en fait la réalité scientifique. Où, la première fois qu'on a observé,
parce
qu'on
que
peut dire donc que ça existe, et c'est l'année dernière.
On n'est même pas sûr que ça existait.
Au fond, c'est des modèles de trucs qui sont un peu... On est aux limites, là, quand même.
Ok, on n'est pas vraiment sûr que ça existe, finalement.
Quelque part, c'est un peu ça. Ok.
Bon.
Et pour ces histoires, je crois, on a parlé de ces trous noirs, de ce que ça nous inspire.
Donc, merci à ton fils pour cette magnifique question.
Ouais.
J'espère que vous avez suivi un peu nos raisonnements.
On espère, ouais. Restez clair et pas trop se perdre. Alors, on va passer au point d'astronomie de la semaine.
Alors là, Fred, tu voulais nous parler du temps-lumière.
Ouais, du temps-lumière. Alors toujours
du
un
temps
peu...
temps-lumière.
Alors déjà, c'est un peu bizarre. Temps-lumière, c'est année-lumière, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une année-lumière?
C'est à peu près clair. Non, je pense pas.
Bah si, t'allais le dire, vas-y. Hein.
Ouais, mais c'est le temps-lumière, c'est le temps que la lumière parcourt en secondes, en années.
Voilà, c'est le temps qu'elle parcourt. C'est le temps qu'elle voyage, en fait, le temps qu'elle met pour aller d'un endroit à l'autre.
C'est la distance qu'elle parcourt.
Et du coup, c'est la distance.
En temps.
Donc, si je dis une année-lumière, ça veut dire, sous-entendu, ça veut dire la distance parcourue par la lumière en une année.
Ok.
Alors, considérons la vitesse de la lumière dans le vide. Parce que dans les milieux plus denses, type l'air, le verre, etc., la lumière se déplace à une autre vitesse.
D'accord.
Alors ça, on en reparlera, mais ça induit l'effet de diffraction. Et de changement de direction des rayons lumineux quand ils changent de milieu. Bon, en tout cas, voilà, le temps-lumière, c'est ça. Et donc, je vais en parler parce que là encore, c'est une échelle qui nous donne, qui nous permet de nous faire une représentation mentale, un peu des distances.
C'est une carte, finalement.
Ouais, ça nous permet de nous faire cette carte, de nous représenter les choses. Parce que si je dis, voilà, la distance Terre-Soleil, par exemple, c'est 150 millions de kilomètres.
Ouais.
Bon, bah, c'est bien. Maintenant, si je dis, la telle distance, c'est 900 milliards de kilomètres, sincèrement, ça fait un peu le même effet.
Ouais, bon, on est perdu, quoi. Ouais.
Donc, c'est pas comme ça qu'on va compter. Comme tout à l'heure, on a dit, ben voilà, on va mesurer la masse des étoiles en masse solaire, parce que c'est ce qu'on connaît, voilà, la masse du... Ça sera l'unité de base. Et ben, on fait pareil un peu pour tout. Et on va faire pareil pour les distances. Donc, à l'intérieur du système solaire, on parle souvent en unité astronomique. Donc, l'unité astronomique, en abrégé, c'est UA. Ouais. Et ben, en fait, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil.
Ok.
Moyenne.
Donc, tu as dit combien?
150 millions de kilomètres.
Ok.
Donc, ça, on va dire, c'est 1. Et donc, là, on va pouvoir se faire une image du système solaire. Et par exemple, on va dire, eh ben, Pluton, elle va se trouver à 40 ou 50 unités astronomiques.
D'accord.
Donc, là, on a une échelle d'un coup.
Ouais.
50. Si je mets un soleil au centre d'un terrain d'un pré, je fais un pas d'un mètre, c'est la Terre, et ben je fais 50 pas, là voilà, j'ai l'échelle des planètes du système solaire.
Ok. Et la Lune par exemple qui
est, ben, la Lune, on va pas mesurer en unité astronomique.
D'accord.
Parce que la Lune,
proche.
Elle est à 300 000 km. Donc c'est trop petit.
Ah, okay.
Donc voilà, donc là on était. Donc ça, je le mentionne, l'unité astronomique, parce que c'est vrai que voilà, c'est cette idée d'unité adaptée au système solaire. Mais donc, nous on parlait du temps-lumière et donc de la distance que parcourt la lumière en un temps donné. Et donc, par exemple, on peut transposer ces distances, par exemple, une unité astronomique, 150 millions de kilomètres, la distance Terre-Soleil, et bien ça correspond à 8 minutes lumière, 8 minutes 30.
Tu veux dire que quand on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes.
C'est ça.
La lumière qui arrive,
elle a mis 8 minutes pour venir. Et ça nous amène à une idée qui est quand même vraiment importante quand on observe le ciel. C'est cette idée que regarder loin, c'est regarder dans le passé.
Et ouais,
que tout ce qu'on voit est décalé dans le temps.
Selon la distance plus ou moins lointaine.
Voilà. Et donc on parle de temps-lumière, on l'a dit la dernière fois, l'étoile la plus proche, la Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière.
Ouais.
Donc je ramène, hein, le Soleil, pour nous, c'est 8 minutes. Et l'étoile la plus proche, c'est 4 ans. Là aussi, d'un coup, ça nous parle. Ça semble énorme, mais au moins, on se rend compte
ouais,
là, de la démesure du vide.
C'est comme si on adaptait les cartes qu'on a à notre échelle, mais à l'espace de l'univers. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on peut se représenter les choses.
Ouais.
Voilà. Donc, on était le temps-lumière. Et ben donc, par exemple, le système solaire, on peut le décrire comme ça. Mars, si on part du Soleil, Mars, c'est 12 minutes. Donc la Terre, 8 minutes. Mars, il en faut 12.
D'accord.
Après, Jupiter, c'est 40, déjà. Saturne, 80. Et après, la ceinture de Kuiper. Alors, la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire... Quand on a passé les planètes, voilà, Pluton, d'ailleurs, a été déclassé, hein, fait plus partie des planètes officielles, donc fait partie de la ceinture de Kuiper. Et la ceinture de Kuiper, c'est tout un tas d'astéroïdes, de débris, de création du système solaire, ou de trucs captés, bon, qui sont là. Et qui... c'est plus
Un anneau du Soleil.
Ouais, voilà, parce qu'il est relativement étendu.
Ouais.
Et donc, autour, on va dire, entre 4 et 10 heures lumière, on a cette ceinture de Kuiper. Et tu nous parlais de la sonde Voyager,
oui,
la semaine dernière, qui était partie dans les années 70.
Ouais, en 77.
Eh bien, Voyager, elle est actuellement à 17 heures lumière. Donc, elle a passé la ceinture de Kuiper. Elle est derrière. Donc, elle est aux confins du système solaire. Et le système solaire, ensuite, derrière, on va trouver ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui, lui, est sphérique. Et là aussi, c'est comme une espèce de grosse boule de tout un tas de débris qui orbite autour du
C'est plus de la poussière, non, que des...
Ça va être un mélange. Hein.
Ah,
il va y avoir de la poussière, il va y avoir des... C'est de là que viennent les comètes, par exemple, beaucoup. C'est pour ça que les comètes ont des orbites qui traversent le système solaire, pas dans le plan de l'écliptique, hein, pas dans le plan des planètes. Elles peuvent venir de n'importe quelle direction, en fait. Donc voilà, et ça c'est une année-lumière à peu près. Donc voilà, d'un coup, là, on a une échelle. On a un système solaire qui fait à peu près, jusqu'à la dernière planète, 5 heures-lumière.
Ouais.
On a ensuite tout un tas de débris jusqu'à aller peut-être une année avec le nuage de Oort. Et là, ensuite, on n'est plus du tout dans le système solaire. Prochaine étoile, 4 années-lumière. Ok, très bien. Et maintenant, c'est quoi ? Ben, c'est notre galaxie. On l'a dit, hein, toutes les étoiles qu'on observe, elles sont dans notre galaxie, la Voie lactée.
Ouais.
Et notre galaxie, c'est comme un disque bombé en son centre. Et on dit qu'il a à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Et 10 000...
En longueur. Voilà, 100 000 années-lumière de longueur. Ouais, ouais. Et 10 000 en largeur.
Ouais, c'est ça. Le bulbe au centre, il ferait 10 000 à peu près 10 000 années-lumière. Ouais, ouais. Et voilà. Et 100 000 ans pour traverser la galaxie. Voilà, d'un coup, les échelles. Donc après, si on veut aller aux galaxies, c'est des millions d'années-lumière.
Galaxie la plus proche
donc
de
après,
nous.
Donc après, là, ça commence à devenir... là aussi, on ne se rend plus compte.
Qui est galaxie d'Andromède ?
Nuage de Magellan.
Nuage de Magellan, ah ouais.
Voilà. Donc ça, c'était pour le temps-lumière, pour cette unité adaptée.
Ok.
Et pour ce point d'astronomie de la semaine, on va faire une petite pause musicale. Et on se retrouve après.
À tout de suite.
Don't
Et voilà pour la pause musicale. Bon retour dans l'étoile polaire sur RDWorld ce dimanche matin. C'était un morceau de Kaya, chanteur de l'île Maurice, grand chanteur mauricien de Ségué. Voilà, avant de poursuivre, je fais un petit mea culpa. Là, j'ai parlé tout à l'heure de lumière et de lumière qui change de vitesse quand elle change de milieu. J'ai dit que c'était la diffraction. Mea culpa, c'est la réfraction. Pardon. Voilà, bon, on va en reparler derrière parce que
on est content.
De lumière,
merci
avec
Fred.
Newton. Ouais, non, mais là, je voulais quand même rectifier. Mais Pierrick, je te laisse la parole. Tu vas nous parler donc dans ta rubrique sur l'exploration spatiale de Voyager. Tu vas continuer un peu tout ça.
Ouais, bah, la dernière fois j'avais parlé de Voyager 1, et du coup je vais parler de Voyager 2 cette fois-là. Donc petit récapitulatif des sondes Voyager, donc elles sont lancées en 77. Donc elles ont profité d'une bonne conjonction planétaire, surtout de Jupiter et Saturne, qui étaient dans un bon placement pour que les sondes puissent profiter de la gravité de ces planètes pour accélérer et aller visiter d'autres planètes.
On avait parlé des effets de fronde gravitationnelle, voilà, sur les planètes massives. Ouais.
Donc on avait parlé de Voyager 1 qui était allé voir Titan. Donc le choix est fait sur Voyager 1 d'aller voir Titan parce qu'elle avait une atmosphère épaisse, donc intéressante. Et donc Voyager 2, donc après avoir passé Jupiter et Saturne, elle est venue un peu confirmer ce qu'avait vu Voyager 1. Et elle est allée voir Uranus et Neptune. Donc ça, c'est la première fois qu'une sonde allait jusque-là. Donc c'est assez incroyable. Même maintenant, je crois encore. Uranus, il me semble qu'elle n'a pas été explorée depuis.
Aucune sonde.
Ouais.
Je sais pas.
Ouais, non, je crois pas. Donc Uranus, elle est allée voir la planète Uranus, qui a un champ magnétique proche de la Terre. Alors c'est ce qu'elle a détecté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
J'imagine que ça veut dire...
Pour comprendre les planètes, comment elles marchent, c'est peut-être intéressant. Mais...
Ah bah c'est ça.
Ouais,
de toute façon, pour comprendre... tout ça, ça sert à la planétologie, à essayer de comprendre comment sont formées les planètes, enfin, étudier, comparer. Voilà. Mais donc un champ magnétique proche de celui de la Terre, j'imagine que ça veut dire voilà, proche en intensité, dans sa répartition aussi, enfin, qui ressemble.
Ouais.
Parce qu'on peut dessiner en fait un champ magnétique, des lignes de champ. Ça, c'est
entre les pôles, les deux pôles de la planète, c'est ça, non?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Ben, un gros aimant, quoi. Qui
exactement.
Met,
ouais. C'est l'expérience qu'on peut faire, ça. On met un aimant, par exemple, et puis une feuille par-dessus, et on met de la limaille de fer, et on voit se dessiner ce qu'on appelle les lignes de champ.
Ouais, ça, c'est assez magique, ouais. Donc voilà, Uranus et son champ magnétique. Et elle a découvert, Voyager 2, elle a donc découvert 10 lunes autour d'Uranus qu'on n'avait jamais vues. Dont Miranda, qui a une lune qui a des canyons de 20 km de long, de profondeur. Donc bien fracturé, bien chaotique. Ensuite, elle est visitée Neptune. Donc ouais, c'est bien la seule et unique fois qu'on est allé voir Neptune.
D'accord.
Donc c'est quand même quelque chose. Et là, elle a découvert 9 lunes qui tournaient autour de Neptune. Et la grande tache sombre de Neptune. Donc en fait, cette grande tache, c'est un peu similaire à celle de Jupiter, l'espèce de grande tache. En fait, c'est une énorme tempête.
Ouais, c'est ça, un gros ouragan.
C'est des gros ouragans de gaz. Donc c'est des planètes gazeuses. On est que toujours dans des planètes gazeuses.
Ouais.
Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, c'est des planètes gazeuses.
Probablement avec des cœurs solides quand même.
D'accord, ok. Ouais. Et du coup, elle a mesuré des vents à 2000 km/h à l'intérieur. Donc
ouais.
C'est assez énorme à se rendre compte, c'est un peu foufou. Et il y a, donc du coup, autour de Neptune, il y a Triton. Donc il y a aussi une atmosphère ténue, ce qu'on appelle ténue, d'une température de 38 Kelvin.
Ah.
Alors, le Kelvin,
ouais.
Vu qu'on est dans les unités.
Ouais. Alors déjà, ténue, ça veut dire peu dense, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, en fait, qui est là.
D'accord.
Comme bah, par exemple à la surface de la Terre, si on monte en altitude, on dit que l'air se raréfie. C'est un peu ça.
Ok.
Il y en a moins. Quoi. Et tu dis le Kelvin, et bah, c'est une mesure de température. Alors, bah, oui, toujours adapté. C'est une mesure physique parce que le zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge dans la matière. C'est la mort de tout, c'est la fin de tout. Donc en fait, c'est une température qui n'existe pas. Parce qu'il y a toujours du mouvement à l'échelle des atomes. Donc voilà, le zéro, c'est la température hypothétique où il n'y a plus rien.
Il ne se passe rien. Du coup, en Celsius, c'est combien?
Et donc, c'est moins 273,15 degrés Celsius.
D'accord.
Donc, ça veut dire quand on parle de 10 Kelvin, en fait, c'est moins 263 degrés.
D'accord. Donc, 38 Kelvin.
Donc, voilà, on te fait quelque
chose. Ok, merci, Fren, pour ces précisions. Et donc, la sonde Voyager, après ça, bah voilà, comme on disait, elle est partie... ceinture de Kuiper. Mm. Et là, elle est même après, un peu avant le nuage d'Oort.
Ouais. Enfin, un peu avant. On disait 17h lumière.
Avant, ouais. Ouais. Donc là, ouais, elle est 17h lumière.
Et on disait 4 ans jusqu'à la prochaine étoile. Donc ça, tu disais 40 000 ans,
c'est ouais, ça. Ouais, à peu près 40 000 ans pour,
que,
elle
va, ouais.
Ouais, pour qu'elle arrive dans un autre système. Ouais. Qu'elle passe à proximité. Enfin, à proximité, c'est... À l'échelle astronomique, voilà, c'est quand même loin.
Ouais, là, on sera de toute façon plus du tout là pour le voir. Mais bon, ça non, mais
c'est,
une idée,
c'est pour dire que dans 40 000 ans, mais même 100 000 ans, elle sera toujours là, dans l'espace, à avancer. Elle ne va jamais rencontrer, enfin jamais, ça, peut-être dans je ne sais pas combien de millions d'années. Mais elle va avancer toujours, c'est une trace de nous quoi, qui s'échappe comme ça dans l'espace. Donc ces sondes, même si elles ont à peu près 50 ans, elles sont toujours actives. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que pour communiquer avec cette sonde, parce qu'elle reçoit toujours des informations, mais aussi elle, on en émet. Et donc pour communiquer avec elle, la NASA avait mis en place, enfin ça ne sert pas que à ça, mais quand même ça a servi à ça, de 27 antennes, de chaque antenne fait 25 mètres de diamètre, qui sont disposées sur un chemin de fer, qui a une forme de Y, et que les deux branches du Y... 21 km chacune et que le pied du Y fait 19 km.
Ouais, c'est énorme.
Donc on imagine le délire pour enfin c'est incroyable pour communiquer pour avec cette sonde.
Non
c'est...
mais en fait ce que ça attention, faut pas imaginer une antenne de 19 km.
Non mais c'est pour dire là, les... tout est séparé comme ça.
Oui oui. C'est... Mais en fait c'est des instruments qui sont d'une taille on va dire humaine.
Bah elles font 25 chaque antenne fait 25 mètres ouais, avec 27 ça,
ouais. Donc oui, non, c'est gros, c'est gros, c'est gros.
Sont super espacés, mais...
Oui, mais il y en a où les interféromètres longue distance, tout ça, ouais, ça peut être vraiment très très loin, des mêmes centaines ou milliers de kilomètres, des fois.
Ouais, c'est impressionnant, quand même, je trouve. Et donc, la prochaine émission, ce sera sur donc ces sondes qui sont parties pour l'infini, comme ça.
Ouais.
Donc on parlera de ça, dedans, ils ont mis un disque d'or.
Et oui, c'est les fameux.
Pour avoir une trace de notre espèce. Parce que peut-être on sera plus là d'ici là.
Qu'est-ce qu'on a bien mis sur ce
disque. Voilà, qu'est-ce qu'on a bien mis. Et je finirai juste par la dernière photo qu'on a reçue de Voyager. Donc ils ont eu, je trouve, une bonne idée. Ils ont fait retourner le bras articulé sur lequel il y a l'appareil photo de Voyager.
Ah oui, d'accord.
Et ils l'ont retourné. Et ils ont pris une photo donc, du système solaire. Et on voit la Terre.
Ok.
Et c'est un petit point bleu pâle. Et donc ça, c'est le nom de la photo, c'est le point bleu pâle. Donc quand on voit la photo, elle est sympa, mais enfin, il n'y a rien de spécial, mais il y a juste un minuscule point, un endroit avec une flèche, parce qu'on ne voit pas trop. Et ben c'est nous. Voilà, on est perdu là.
Chouette.
Et voilà, je trouvais une belle image, finir par ça. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Pierrick, pour tout ça.
Avec plaisir.
Et on va passer à la dernière partie. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, bah, je voulais, sans transition, dire que... Maintenant, tu allais nous reparler de Newton, du coup.
Voilà. On va passer à la dernière partie de l'émission, la chronique sur Newton. J'en ferai encore une la semaine prochaine. Et donc, la semaine dernière, on avait parlé de gravitation, de son travail quand même précurseur sur la physique, en fait, sur la mathématisation du monde.
Alors, c'est 17e Newton, c'est ça hein?
Ouais, c'est ça, vers 1680, autour de ça. Et voilà, et de cette idée de force, la force de la gravitation, etc. Donc là, il a aussi énormément travaillé sur l'optique. Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine. Donc... il est très célèbre pour avoir inventé le télescope, quand même. Le télescope type Newton, ça, tous les astronomes amateurs le connaissent. C'est-à-dire, avant, il y avait des lunettes, ça, c'était Galilée. Hein. Alors, au tout départ, la lunette, il me semble que c'était des opticiens hollandais. qui avait mis ça au point, et c'était un instrument militaire. C'était une arme, en fait, pour la marine, pour observer de loin ou pour épier l'ennemi, en fait. Donc c'était technique militaire.
Un instrument de guerre.
Et en fait, c'est Galilée qui a eu l'idée de prendre ça et de le pointer vers le ciel. Il a découvert les satellites de Jupiter. Bon, Galilée, de toute façon, je consacrerai au moins une émission à lui, donc on y reviendra. Mais ensuite, la différence avec le télescope, c'est que là, le télescope n'utilise pas des lentilles de verre, il utilise des miroirs. Et ça, c'est Newton qui l'a inventé.
Mais ça change quoi, du coup ?
On va en parler. Mais ce que ça change principalement, c'est qu'on peut faire des instruments beaucoup plus gros. Parce que c'est compliqué de faire des lentilles de gros diamètre. C'est très fragile, on est sur du verre, c'est très précis, il y a des... C'est technique, en fait. Alors que construire des miroirs sphériques, c'est facile.
D'accord.
En fait, elliptique. La vraie forme en optique, c'est une ellipse, mais sur des petits diamètres, c'est presque des cercles, des boules.
C'est concave, quoi, c'est ça, non ? C'est des...
Convexe.
Convexe, ok.
Ouais. Il y a des...
Bombés, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Des miroirs bombés, exactement, ouais.
Et du coup, la différence entre
Alors,
Newton...
Je vais y venir. Donc, on va d'abord parler de son travail sur l'optique. Donc, il a décomposé la lumière avec un prisme. Donc, un prisme, c'est quoi ? C'est une petite pyramide de verre ou de quartz. On visualise bien ça. Et ça fait des arcs-en-ciel. Je pense qu'on est beaucoup...
Bah, rien qu'un arc-en-ciel, le prisme, c'est l'eau, quoi.
Voilà, alors ouais, mais visualiser que un nuage, ça fait la même chose qu'un prisme, c'est pas forcément évident.
Ouais.
Le résultat est le même, d'accord, mais... Alors bon, en tout cas, si on voit la pochette de Pink Floyd, la Dark Side of the Moon, voilà, c'est ça. La lumière blanche qui arrive, et elle passe à travers le prisme, et là, on ressort des rayons colorés. Donc de l'arc-en-ciel. Et ça, Newton, il a fait des expériences là-dessus et il a décomposé la lumière et ensuite il l'a recomposé, il a mis un autre prisme derrière et hop, on refait de la lumière blanche. Et là, en fait, où il a été un précurseur, c'est de dire la couleur, elle n'est pas dans le prisme. C'est pas le prisme qui teinte la lumière blanche, en fait. C'est la lumière blanche qui contient déjà ces couleurs. Et donc, c'est le premier à analyser la lumière, en fait. Et ça, c'est ce qu'on fait en astronomie tout le temps. On analyse la lumière qui nous arrive pour en obtenir, pour avoir des informations sur ce qui a émis cette lumière. Parce que clairement, une étoile, elle a une signature. On peut étudier sa lumière et on va savoir de quoi elle est composée, on va savoir plein de choses. Donc ça, on fait beaucoup ça en astrophysique. Donc lui, le premier, en fait, il parle de ça, du fait que la lumière, en fait, est composée de plusieurs longueurs d'onde, de plusieurs couleurs. Et donc, il développe la loi de la réfraction. C'est-à-dire, il dit, ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait, en fait, que la lumière... Alors, il pose déjà l'hypothèse du photon, parce qu'il dit la lumière, elle est faite de petits corpuscules, de petites boules de lumière. Donc, il a déjà cette idée du photon, que la lumière, elle se déplace vite. Alors, ça, on n'en a pas parlé, mais quand même, depuis le début de l'émission, on a parlé du temps-lumière, etc. On va quand même mentionner la vitesse de la lumière. C'est 300 000 km par seconde dans le vide.
Dans le vide, ouais.
Mais 300 000 km seconde, là encore, on ne parle pas trop, mais c'est 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Donc là aussi, ça donne l'échelle, parce que quand on parlait tout à l'heure de Voyager qui a 17 heures lumière, 17 heures à quelle vitesse ? À cette vitesse-là. Cette vitesse,
300 000 km seconde.
Voilà, ouais. Chaque seconde, vous faites 7 fois et demi le tour de la Terre. Et à cette vitesse-là, il vous faut 17 heures pour aller trouver Voyager. Et il vous faut 4 ans pour voir la prochaine étoile. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, la lumière, elle se déplace à une certaine vitesse dans le vide, mais dès qu'elle traverse un milieu plus dense, elle ralentit. Et en fait, cet effet-là va faire qu'elle va changer de direction.
Ouais.
Et ça, on l'observe. Hein. Par exemple, c'est le coup classique, on met un bâton dans l'eau,
ouais.
À moitié dans l'eau, à moitié dehors, on a l'impression qu'il est courbé. Bon, ça, c'est lié à cet effet-là de réfraction. Cette fois, c'est bon. Voilà. Il donne la loi pour ça, pour prédire en fait comment la lumière va être déviée. Il le calcule, il trouve la loi, il la donne. Et donc là encore, hein, toujours cette idée de mathématiser le monde. Et il est capable maintenant de dire comment la lumière elle est déviée par le prisme. Et en fait, il introduit ce qu'il va appeler l'indice du milieu, un nombre qui va caractériser un peu la densité optique d'un milieu. Donc l'air c'est 1.
Ah oui,
encore, c'est pas le vide qui est 1, c'est l'air.
Selon ce que ça traverse,
voilà.
Il a mis une échelle en place pour voir.
Ouais, exactement. Pour regarder. Et il mesure les indices des différents milieux, etc. Il fait ses petites tables, il fait ses petites lois et ça marche. Et en fait, là où il... Et donc justement, et on en vient au télescope. Donc il fait ce travail sur la réfraction. Qui est déjà en soi super intéressant parce qu'il parle de la lumière, de sa nature, etc. Après, de comment elle se propage, bon, ça c'est encore autre chose. Et ensuite, du coup, il dit, si on a des lunettes pour observer le ciel, les lunettes, en fait, c'est des lentilles, donc la lumière passe dans le verre. Or, le verre, je viens de le prouver, il réfracte la lumière. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des aberrations chromatiques. C'est-à-dire que, on va pas avoir une image nette de ce qu'on voit, on va avoir, en fait, des petites taches, des petits arcs-en-ciel un peu pour tout, quoi. Et donc, des couleurs, et ça le fait des fois, sur le bord des jumelles ou les choses comme ça, on voit, ça devient rouge, bleu, des couleurs.
Ça scintille, ouais, voilà. Ça scintille arcs-en-ciel, quoi.
Exactement, ouais. Et ça, c'est cet effet-là, c'est un effet d'optique qui est dû au fait qu'on traverse du verre. Les jumelles, c'est un système c'est des lentilles, c'est comme la longue-vue, quoi.
Ouais.
La lunette. Donc lui, il dit, pour supprimer ce problème, on va utiliser des miroirs. Parce qu'un miroir, lui, il ne fait que réfléchir la lumière. On ne traverse pas un autre milieu. La lumière est juste renvoyée. Et donc le miroir, lui, il ne fait pas d'arc-en-ciel. Et donc au départ, l'idée de Newton, c'est ça. C'est de dire, je veux supprimer ces aberrations chromatiques, et donc je vais faire des miroirs. Et donc il invente le télescope à miroir.
Okay,
le télescope de type Newton, au départ pour supprimer le défaut d'aberration chromatique sur les images. Mais ce que ça a induit derrière, c'est que pour des raisons techniques, c'est beaucoup plus simple de construire des gros miroirs que de construire des grosses lentilles, de qualité en tout cas. Et donc, on a pu, à partir de là, avoir des plus gros télescopes, et donc plus gros diamètre veut dire collecter plus de lumière, veut dire grossir plus, voir mieux en fait. Et en fait, toute l'astronomie, elle a beaucoup progressé, en fait. Parce qu'on a pu mieux voir.
Ok, il n'y a pas une différence entre télescope et lunettes au niveau de l'observation des planètes?
Alors là, on bascule dans autre chose. Effectivement, dans la pratique de l'astro-amateur,
ouais.
On a tendance à dire que les lunettes, c'est bien pour les planètes.
Ouais, voilà. Ouais.
La Lune, voilà. Parce qu'on va avoir des images de belle qualité, il y a des belles, quand on a une bonne lunette. Et en fait, la lunette, elle va pas forcément être adaptée au ciel profond. Pour tout ce qui est galaxies, nébuleuses, c'est pas l'idéal. Là, on va plutôt privilégier le télescope.
D'accord. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et c'est aussi l'idée que c'est rare d'avoir une lunette de gros diamètre aussi, parce que c'est beaucoup plus cher qu'un télescope du même diamètre.
D'accord. C'est-à-dire que tous les grands télescopes de maintenant, c'est des miroirs type Newton.
Oui, c'est des miroirs. Mais après, il faut voir aussi que la plupart des gros télescopes de maintenant, c'est plus des télescopes optiques.
Oui,
on n'observe pas dans l'optique, mais on reste quand même dans des systèmes de miroirs ou alors dans des systèmes d'antennes si on est sur du radiotélescope. Bon, voilà, ce serait l'occasion de parler de ça une autre fois. Donc voilà, en ce qui concerne Newton et l'optique, je crois avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Pierre-Luc?
Non, c'était très chouette, merci.
En tout cas, on a pris plaisir à faire cette émission. On espère que vous en avez pris à l'écouter. Et on vous souhaite une bonne semaine.
Merci bien, à la semaine prochaine.